Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Bon réveil avec Europe 1, nous sommes le mercredi 15 septembre.
Écoute, c'est toi qui conduis ou moi? Écoute, écoute un peu ça, poupée. T'entends mon air préféré? Mets-moi la radio un peu plus fort et n'aie pas peur, je vais pas aller dans les décors.
Non, surtout n'allez pas dans les décors, comme dit le regretté Gainsbourg. Restez prudent si vous nous écoutez au volant.
Vous conduisez comment, Julien?
C'est pas moi de le dire, mais je pense plutôt bien.
En toute sécurité, de la manière la plus écolo possible, oui. J'imagine évidemment. Et si vous installiez une application dans votre smartphone pour vous conseiller sur votre façon de conduire, une appli associée qui plus est à une assurance automobile, c'est l'idée qu'ont eu le leader mondial du covoiturage Blablacar et l'assureur L'Olivier. Et en installant l'appli, votre coach perso de conduite, eh bien votre assurance auto vous coûtera moins cher. Comment ça fonctionne? On verra ça avec Gwenaël Moi, le responsable assurance chez Blablacar.
Et vous, Omblin, vous conduisez comment?
trop brusquement, avec des à-coups. Mais j'y travaille.
À-coups, justement. Ah. C'est ce que vont vivre les hôpitaux et les maisons de retraite dans les jours qui viennent. Et pour cause, 11% de leur personnel soignant compris ne peuvent plus travailler à partir d'aujourd'hui. Ils n'ont pas reçu leur première dose de vaccin contre le Covid qui est désormais obligatoire pour toutes ces professions. Comment remplacer ces personnes au pied levé alors que la situation est déjà à flux tendu? Eh bien, on en parlera à 6h10 avec la directrice de la FNADEPA, la fédération représentant les directeurs des EHPAD. Au menu également du cinéma à 6h moins le quart avec Laurie Choleva qui est allée voir l'un des films les plus attendus de l'année, Dune de Denis Villeneuve, et puis de la musique pour terminer.
Il a été acteur pendant 8 ans dans les années 80 et a dû se montrer patient avant de percer dans la chanson. Laurent Pagny, ses débuts dans la partition à 6h20.
Et pour bien commencer, la météo. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
J'ai vu la moue d'Anissa Haddadi, oui, pour bien commencer.
Beaucoup de pluie.
Oui, on va pas vraiment bien commencer la journée, en tout cas dans le sud, parce que malheureusement ce qui s'est passé hier et qui était très impressionnant n'est pas terminé aujourd'hui. Nous avons 13 départements placés en vigilance orange. Ça va de la Haute-Garonne jusqu'à l'Allier en passant par le Puy-de-Dôme, la Haute-Vienne, l'Aveyron. Vigilance orange pour pluie, inondation et orage. Mais attention, le Gard est lui placé en vigilance orange cru, car effectivement le Vistre est en cru, c'est très impressionnant et la décrue est très très longue. Alors déjà ce matin de l'Occitanie au nord-est, il pleut sur tous ces départements en vigilance. Les orages peuvent être forts par endroits, mais attention, ce qui nous intéresse le plus et ce qui risque d'être le plus impressionnant, là on va garder un œil dans le Gard et l'Hérault. De nouveaux orages arrivent dans la matinée, ils seront forts, les sols sont déjà gorgés d'eau et il faut savoir qu'aujourd'hui dans le Languedoc on attend 80 à 100 mm, ce qui est quasiment tombé hier, 2 à 3 mois de pluie sur quelques heures. Donc il va falloir être très vigilant cet après-midi. Les orages vont se multiplier, seront forts également sur le Lyonnais, des Pays de la Loire à la région parisienne, des petites averses. Et puis bonne nouvelle quand même, c'est le soleil qui revient sur les côtes de la Manche entre la Bretagne et la Normandie. Côté température, toujours beaucoup de douceur ce matin, puis ça baisse, on perd 2 à 3 degrés l'après-midi.
Prudence donc dans le Gard, merci beaucoup Anissa Haddadi. Place à l'info, votre premier journal de ce mercredi. Il est 5h sur Europe 1.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
C'est le grand jour. Les soignants doivent désormais avoir reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid pour avoir le droit de travailler. La très grande majorité est en règle, mais l'absence au travail de quelques réfractaires pose problème dans certains établissements. Face à cette obligation, des praticiens préfèrent mettre leur carrière sur pause jusqu'à nouvel ordre. Témoignage à venir d'un médecin généraliste dans ce journal. De forts orages attendus encore aujourd'hui dans le Gard. Anissa nous en parlait à l'instant. Hier, 2 mois et demi de pluie sont tombés en moins de 3 heures dans le département, record absolu. Bilan un disparu, 800 pompiers mobilisés et écoles fermées aujourd'hui. Nous serons avec notre correspondant sur place. Et le journal de 5 heures vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour Julien, bonjour Omblin, bonjour à tous. La date butoir, c'est aujourd'hui. Les soignants doivent être vaccinés contre le coronavirus pour pouvoir travailler ce matin. Au moins une dose, sinon ils risquent la suspension à compter de ce mercredi et ne seront pas payés. On fait un point avec vous, Élise Dangean, ce matin. Bonjour Élise.
Bonjour.
Parlons d'abord des chiffres. On connaît le taux de vaccination chez les soignants?
Alors, selon les derniers chiffres du ministère, le taux de couverture vaccinale dans les établissements de santé atteint désormais 89%. 89%, c'est également la part de soignants vaccinés dans les EHPAD. Les bons élèves restent les soignants libéraux. 95% d'entre eux ont reçu leur première injection. On frôle même les 100% chez les médecins généralistes et chez les spécialistes, avec une exception, les sages-femmes. Environ 10% d'entre elles ne sont pas vaccinées. Des taux de couverture qui sont encore plus élevés au moment où l'on se parle, puisque les chiffres dont nous disposons datent de dimanche soir et qu'en deux jours, eh bien, beaucoup de soignants ont reçu en urgence leur première dose.
Et on l'entend, Elisa, il ne reste que très peu de réfractaires, notamment au sein de l'APHP. Son directeur Martin Hirsch a estimé hier que plus de 95% des effectifs sont vaccinés. Mais pour ceux qui n'ont toujours pas sauté le pas, on imagine que leur absence peut poser problème.
Eh bien oui, il y a quelques cas, à Montélimar par exemple, où l'hôpital va être obligé de reprogrammer des opérations. Là-bas, une centaine de salariés refusent le vaccin, et en particulier trois anesthésistes, des postes cruciaux, explique Henri Haussmann, président des médecins de l'hôpital de Montélimar.
Compte tenu des difficultés, nous avons lancé un SOS général. Pour le moment, on a eu un anesthésiste qui peut se détacher pour la semaine prochaine, sachant qu'il nous faut minimum 4 anesthésistes sur place.
Dans cet hôpital, le DRH reçoit déjà le personnel qui refuse de se faire vacciner pour discuter de la suite au-delà des suspensions.
Merci Élise. Et puis pour les médecins libéraux, pas d'entretien avec les RH. Les non-vaccinés s'exposent aussi à des sanctions. Dans l'Oise, le docteur Véronique Rogès exerce depuis 30 ans. Cela fait 11 ans qu'elle est à Noyon et pour elle, hors de question de se faire vacciner. Elle préfère fermer son cabinet jusqu'à nouvel ordre. Nicolas Feldman l'a rencontrée.
Si je suis ouverte, je risque des sanctions pénales, 6 mois d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende. Je ferme donc mon cabinet. Moi je peux me le permettre, je suis à 3 ans de la retraite peut-être. Je peux me permettre de fermer, de continuer à pas me faire vacciner. C'est sûr, c'est dur, il y en a qui ne se privent pas pour me le dire, hein, que je prends en otage mes patients. J'ai encore pas mal de petites personnes âgées chez qui je vais. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Je ne sais pas. Moi, je sens fortement que la cause, elle est beaucoup plus grande que ça.
Qu'est-ce qui ferait que vous pourriez rouvrir votre cabinet?
Ça va dépendre de l'État. Il y a beaucoup de gens qui sont autour de nous, qui étudient les recours. Et je pense que pour faire bouger les choses, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Moi, j'irai jusqu'au bout.
Et contre cette obligation vaccinale du personnel soignant, plusieurs centaines de personnes, des milliers selon la CGT Santé, ont manifesté hier dans toute la France.
La nuit a été longue, très longue dans le Gard.
Oui, après un véritable déluge hier, l'équivalent de 2 mois et demi de pluie est tombé en 3 heures, un record absolu. Une personne est toujours recherchée après une chute dans un cours d'eau à Aimargues. Jusqu'ici, aucune victime n'est à déplorer, excepté un blessé léger frappé par la foudre. Les établissements scolaires restent fermés aujourd'hui. Face à ce phénomène météo exceptionnel, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu sur place hier soir. L'état de catastrophe naturelle sera déclaré prochainement, selon lui. À Uchaud, l'une des communes les plus touchées, des habitants ont dû passer la nuit dans un gymnase. Notre correspondant européen Stéphane Burgat les a rencontrés.
Des collégiens n'arrivent pas à trouver le sommeil dans le gymnase de Vergèze où ils passent la nuit sur des lits de camp.
Et nos parents n'ont pas pu venir nous chercher parce qu'il y avait trop de bouchons et ils peuvent pas. On est obligé de dormir ici. On n'a même pas de pyjama, on peut pas prendre notre douche, tous fatigués, on a passé une sale journée. On préférait être chez nous, mais c'est comme ça.
Plusieurs routes restaient coupées. Hier soir encore, l'autoroute A9, le réseau secondaire totalement saturé, des voitures abandonnées sur le bas-côté. Et l'enfer pour les automobilistes bloqués de nombreuses heures.
Ça fait trois quarts d'heure qu'on n'avance pas. C'est embêtant, après, il n'y a pas tellement d'autres solutions.
On ne sait pas trop par où passer non plus.
Ouais, on ne veut pas être des naufragés.
Et on espère juste qu'on ne va pas y passer la nuit.
Un phénomène météo intense, mais assez bref, qui a rapidement laissé le temps aux habitants de s'organiser, comme ici, à Aubord.
On est en train de nettoyer, de faire ce qu'on peut. C'est énorme. On ne s'attendait pas du tout. Il commençait à pleuver, ça a commencé à rafaler. Ma voiture, elle est inondée. Là, l'eau, elle est rentrée ici, à peu près. À ce niveau-là, c'est à peu près 60-70 cm de hauteur.
Et un responsable de l'intercommunalité d'Aubord nous soulignait que les bassins de rétention ont permis d'éviter le pire dans certains villages. Uchaud, Stéphane Burgat, Europe 1.
On en vient à ces révélations dignes d'une série télé aux États-Unis.
Oui, dans un livre à paraître la semaine prochaine, Péril. Les auteurs, Robert Costa et Bob Woodward, deux journalistes, assurent que le chef d'état-major était très inquiet de la santé mentale de Donald Trump dans les derniers jours de son mandat. Il a donc agi en secret pour éviter une guerre avec la Chine, Alexis Guilleux.
Oui, et le chef d'état-major Mark Milley a commencé par appeler son homologue chinois, le général Li, le 30 octobre, quelques jours avant la présidentielle. « Je veux vous assurer que l'état américain est stable, nous n'allons pas vous attaquer ». Second coup de téléphone, le 8 janvier, deux jours après l'attaque contre le Capitole par les partisans de Donald Trump, Mark Milley s'adresse toujours au général Li pour lui dire « Tout va bien, mais la démocratie est parfois brouillonne. Selon les deux journalistes, le chef d'état-major américain était convaincu que l'état mental de Donald Trump s'était dégradé après sa défaite électorale. L'ancien président a réagi hier sur la chaîne ultra-conservatrice Newsmax. Si c'est vrai, ce qui est difficile à croire, c'est de la trahison. C'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Je n'ai jamais pensé à attaquer la Chine. Alors d'après les révélations de cet ouvrage, Mark Milley a pris d'autres mesures en interne. Le même jour, le 8 janvier, il a réuni ses collègues de l'état-major dans le plus grand secret pour leur dire de le prévenir personnellement si Donald Trump ordonnait une frappe nucléaire. Il a également contacté la directrice de la CIA pour lui demander de surveiller le comportement du président. Pour le moment, pas de réaction du Pentagone ou de l'administration Biden. Péril sort lundi en librairie.
Et c'est signé Robert Costa et Bob Woodward.
Qui, avec Carl Bernstein, sont à l'origine du scandale du Watergate au début des années 70. On en vient à cette soirée Ligue des Champions à suivre ce soir sur Europe 1 dès 20h.
Pour l'entrée en piste du PSG qui rencontre ce soir Bruges en Belgique. Un match à vivre en direct et en intégralité sur votre radio avec nos envoyés spéciaux. Cyril de la Morinerie, vous êtes déjà sur place et vous avez assisté hier aux conférences de presse. La bonne nouvelle, elle est pour Paris. Le club commence par l'équipe la plus faible de son groupe avant de rencontrer Manchester City et Leipzig. Et Cyril, le PSG pourrait en profiter pour entraîner le trio d'attaque le plus redouté d'Europe, Mbappé, Neymar, Messi.
Oui, c'est ici, dans cette très belle ville de Bruges, surnommée la Venise du Nord, que le fameux trio du PSG pourrait faire ses débuts. La MNM, comme on la surnomme déjà. Après avoir joué une demi-heure à Reims, Lionel Messi pourrait être associé à Neymar et Kylian Mbappé, buteur le week-end dernier en Ligue 1. L'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, est lui aussi euphorique, même s'il refuse de dévoiler ses plans.
Je rejoins toute cette excitation. Je suis comme tout le monde, je serais fou de ne pas vouloir les voir jouer ensemble. Mais est-ce qu'on les verra ensemble demain? Peut-être, oui.
En tout cas, dès le début de l'entraînement hier soir au Jeanne Breydel Stadion, les trois fantastiques ont joué ensemble. Le signe peut-être qu'ils seront alignés ce soir. Les Belges l'espèrent autant qu'ils le redoutent, confirme Bart Laga, journaliste au quotidien Het Nieuwsblad.
On en parle depuis le tirage au sort tous les jours. C'est incroyable de finalement de les avoir dans la même équipe. Parce que Lionel Messi n'a jamais joué un match en Belgique, en fait. Je pense que Paris va gagner facilement.
Paris plus que jamais favori, d'autant que le club parisien s'était imposé 5-0 il y a 2 ans à Bruges, et c'était sans Messi.
Bruges PSG, ça commence à 21h et sur Europe 1, la soirée débute à 20h avec Lionel Rousseau et ses experts.
Merci beaucoup Alban Le Prince pour ce journal.
Il est 5h10 et sur Europe 1, c'est l'heure des courses, le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Compiègne et mon pari gagnant sera le 504 Enfant Rouge. Probante deuxième lors de ses débuts le 17 août à Deauville, derrière Osmose que je sais estimer et qui depuis s'est une nouvelle fois imposée. Cette pouliche à peine âgée de 2 ans possède à l'évidence assez de qualité mais aussi de précocité pour pouvoir rapidement remporter sa première course et pourquoi pas dès cet après-midi face à une opposition largement à sa portée. Notez bien, pour Compiègne, réunion 1, dans la 5e course, le numéro 4, Enfant Rouge.
Merci Thierry Léger, on vous retrouve dans une demi-heure pour vos pronostics du Quintet. Bon réveil sur Europe 1, vous restez avec nous dans une minute, c'est le pressing.
Notre sélection d'articles avec au menu ce matin des amateurs dans l'espace, Netflix, sauce politique et des vaches au petit coin. A tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Très bon réveil et courage à vous si vous êtes déjà au travail. On pense à vous, il est 5h11 et on vous informe bien sûr avec le sourire. C'est le pressing, votre revue de presse, un brin décalé avec le renfort de Martin Lange. Bonjour Martin.
Bonjour Omblin, bonjour Julien, bonjour à tous.
Et on commence, Julien, avec un rapide coup d'œil aux unes de vos quotidiens.
Oui, les entreprises face au casse-tête des recrutements, titre Les Échos. 70 000 offres d'emploi sont à pourvoir dans l'industrie et des pans entiers d'activité dans les services sont à la peine. Ces derniers soignants qui refusent le vaccin. Voilà ce que l'on peut lire à la une du Parisien, alors que depuis aujourd'hui, les personnels des hôpitaux notamment doivent impérativement avoir reçu au moins une dose pour pouvoir continuer à travailler. Et puis Paris Première, c'est le titre de l'équipe pour l'entrée en lice ce soir du PSG en Ligue des Champions. Ce sera face à Bruges, soirée spéciale sur Europe 1 dès 20h. Voilà pour les unes, Ombline, on commence avec vous.
Y a-t-il un pilote dans la fusée ? C'est un
nouveau
remake.
Film.
Voilà. Je suis au regret de vous dire que non. La fusée de la société SpaceX décollera demain avec 4 passagers à son bord. Aucun astronaute professionnel, uniquement des civils, des citoyens américains lambda, des fous. C'est aujourd'hui en France qui en parle ce matin. Alors il y a eu déjà 2 précédents. Hein. La société Virgin Galactic et Blue Origin ont envoyé des touristes tout là-haut, mais seulement quelques minutes et aux portes de l'espace. Cette fois-ci, la mission Inspiration 4, hein, en bon français, volera plus haut que la Station Spatiale Internationale, à 590 km du sol. Et puis ça va durer 3 jours. Hein. L'autre nouveauté, et pas des moindres, donc le pilotage de la fusée Falcon 9, se fera depuis la Terre. Alors qui sont-ils ces astronautes en herbe ? Eh bien, il y a une professeure de géologie et exploratrice, une assistante médicale de 29 ans, qui a survécu à un cancer des os. Elle sera la plus jeune astronaute américaine de l'histoire et la première au monde avec une prothèse à la place d'une jambe dans l'espace, évidemment. Un chef d'entreprise et pilote qui est gratifié du grade de commandant pour cette mission.
Nous voilà rassurés.
Oui. Et puis un ancien de l'armée de l'air. Il pilote aussi. Pas de professionnel donc à bord qui serait capable d'agir en cas d'anomalie. Mais rassurez-vous, la fusée est dotée d'une capsule qui s'éjectera en cas de problème au décollage. Ah bah ça va. Après, bon, on verra.
On plus de rien.
Voilà, exactement. Pendant 3 jours, donc, ils vont tourner autour de la Terre serrée dans un habitacle de 10 mètres carrés. Pas d'intimité, mais une vue d'enfer. Vous imaginez bien. Rendez-vous pour le décollage demain entre 2h et 7h du matin, heure française. Seules des mauvaises conditions météo pourraient reporter la mission. Direction l'espace, sans astronaute, c'est le titre de l'article à lire dans Aujourd'hui en France.
Sans astronaute professionnel.
Sans astronaute professionnel, bien sûr.
Mais j'ai vu qu'il y a une fois dans l'espace, la capsule allait se découvrir, qu'elle allait avoir une coupole pour que ces braves gens puissent avoir une vue absolument panoramique. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, sous cette coupole, il y a aussi les toilettes. Hein. Donc ils pourront faire leurs petites affaires en regardant les étoiles. Merci Ombline.
Ça, c'est chouette alors.
C'est assez classe.
Il fallait le dire.
Martin, à vous.
Alors si je vous fais écouter ça.
C'est toutes les soirées.
C'est Netflix.
Netflix, évidemment. Sauf que ce matin, je ne vais pas vous parler de série, mais de politique, House of Cards en vrai. Car à 7 mois de la présidentielle, la plateforme préférée des sériephiles est en train d'envahir les campagnes de communication des politiques. Alors ça a commencé au début du mois, hein, vous n'avez pas pu passer à côté, l'affiche des jeunes avec Macron appelant les militants à signer pour 5 saisons de plus avec le chef de l'État. Une affiche qui reprend tous les codes graphiques de la plateforme, hein, le fond noir, les lettres rouges. Dans le camp présidentiel, on assume évidemment, hein, on veut parler à la jeunesse et montrer qu'un quinquennat ressemble à s'y méprendre à une série hollywoodienne avec ses rebondissements, ses trahisons et ses succès. Visiblement, la communication des jeunes macronistes a fait des émules puisque quelques jours plus tard, ce sont les jeunes insoumis qui ont envahi la toile avec leur propre catalogue Netflix. La série s'appelle cette fois L'Union Populaire, hein, du nom du programme du candidat Mélenchon, et vous pouvez y trouver des épisodes, hein, qui font référence à ses propositions, la règle verte, 300 000 emplois agricoles, etc.
En fait, c'est une photo qui reprend le menu sur lequel on accède quand on est sur Netflix.
Avec les petits carrés qui correspondent à un épisode, et chaque épisode est une proposition de Mélenchon. Mais n'allez surtout pas accuser, hein, les mélenchonistes de plagiat. C'est assez indécent, cette affiche avec Macron, explique-t-il. Alors que le président a été le fossoyeur de la jeunesse pendant 5 ans, ils ont juste oublié de proposer le résumé de la saison précédente, ironise-t-il. Hein. Dernier épisode du feuilleton Netflix, lundi dernier, cette fois c'est Marine Le Pen qui dévoile son nouveau logo. Et surprise, lui aussi est inspiré des codes Netflix. Un M, hein, pour M la France, dans une typographie, hein, proche du N de Netflix. Ouais. Là encore, hein, on se défend de toute copie, ce sont tout simplement des codes dans l'air du temps. Les jeunes avec Macron n'ont rien inventé, estime Philippe Ballard, ancien journaliste, hein, passé au RN. Au RN aussi, donc, on assume les références à la pop culture pour séduire la jeunesse, car c'est tout l'enjeu de ces campagnes, hein, s'adresser à ces jeunes qui ne votent pas ou ne votent plus. Mais l'ancien journaliste, hein, désormais membre du RN, conclut « J'espère que le niveau de la campagne ne va pas être comme ça pendant 7 mois, on dirait la cour cours de récréation. 2022, hein, quand les candidats s'inspirent des codes Netflix, c'est à retrouver sur le site du Figaro.
Merci beaucoup Martin. J'ai choisi pour ma part un article qui nous transporte dans de verts pâturages. Bonjour mesdames, enchanté. Est-ce que ça vous dirait de contribuer à l'effort collectif pour sauver notre planète?
Bon, c'est un oui ou un non?
On va lui demander parce qu'on l'a perdu notre Julien là. Il parle à des vaches, bravo.
Oui, et alors?
Alors c'est un oui ou un non?
Déjà, je viens d'un petit village de Haute-Savoie, population 28 habitants. Donc si vous voulez conserver l'usage de la parole, mieux vaut apprendre à parler aux vaches. Et puis deuxièmement, Marguerite et ses copines sont des êtres sensibles, dotés d'une intelligence insoupçonnée, comme nous le prouve cette étude que nous rapporte Science et Avenir. Alors pardonnez-moi si vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner, mais on va parler pipi avec ce constat, l'urine des vaches est nocive pour la planète. L'azote qu'elle contient se décompose en fait au fil du temps en deux substances problématiques, l'oxyde nitreux, un puissant gaz à effet de serre, et le nitrate qui s'accumule dans les sols et s'infiltre dans les rivières. Rien que l'oxyde nitreux, ça représente 5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et c'est tout sauf négligeable. Voilà donc pourquoi deux chercheurs néo-zélandais se sont dit un jour, sur le ton de la blague, est-ce qu'on n'apprendrait pas aux vaches à faire pipi dans des toilettes, histoire qu'on récupère l'urine pour la traiter. Chiche, nos deux savants fous, ont donc tenté l'expérience pendant plusieurs mois. Ils ont dressé 16 veaux à uriner dans un enclos à latrine spécialement adapté et leur technique n'a rien de révolutionnaire. Ils ont juste utilisé de la nourriture comme récompense, exactement comme on le fait avec un chiot pour lui apprendre les bases. Eh bien, le résultat est visible dans une vidéo que je vous invite à regarder. C'est impressionnant. On y voit un veau, sans humain à la ronde, pousser la grille de l'enclos, se soulager et ensuite récupérer un peu de foin servi par un distributeur. C'est absolument bluffant. Alors, reste maintenant à adapter ce principe à des environnements en plein air, mais quoi qu'il en soit, voilà la preuve que nos chères vaches peuvent apprendre à protéger la planète. Il faut juste, Omblin, savoir leur parler.
On prendra des cours de vaches. Merci beaucoup Julien. On referme le pressing et Martin, on vous retrouve dans une quarantaine de minutes pour le journal des sports.
Au revoir Marguerite.
Au revoir madame.
À tout à l'heure Marguerite.
À tout à l'heure.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h19 sur Europe 1, les principaux titres de l'actualité de ce mercredi, c'est le journal permanent avec Alban Le Prince.
Pas de vaccin, pas de travail et pas de salaire. Les soignants doivent à partir d'aujourd'hui avoir reçu au moins une dose d'un vaccin contre le coronavirus pour pouvoir exercer. Environ 90% d'entre eux sont en règle selon les derniers chiffres. Record absolu de pluie dans le Gard hier avec l'équivalent de 2 mois et demi de précipitations dans le département en 3 heures, où une personne est toujours recherchée. La circulation reprend difficilement sur la 9, celle des trains est totalement coupée entre Lunel et Nîmes. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu sur place dans la soirée. Plus de bleus sur le terrain, Emmanuel Macron a clos hier le Beauvau de la sécurité à Roubaix. Dépôt de plainte en ligne en 2023, procédure pénale simplifiée, formation des forces de l'ordre allongée, un discours de candidat estime la droite comme la gauche. Enfin, soirée Ligue des Champions à suivre ce soir sur Europe 1 à partir de 20h. Le PSG est en Belgique pour rencontrer Bruges. Pour la première fois, Paris pourrait sortir le trio d'attaque qui terrifie toute l'Europe, Messi, Neymar, Mbappé.
Il est 5h20, bonjour, bienvenue à vous qui arrivez, très bon réveil avec à présent les initiatives en France, la chronique qui nous met de bonne humeur en mettant en lumière celles et ceux qui s'engagent. Et ce matin, Julien, on prend la direction de la Gironde.
Bonjour Marina Dumas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente d'une association dont le nom donne immédiatement le sourire, les Street Coteuses. Expliquez-nous, que faites-vous exactement?
Alors voilà, les Street Coteuses de la rue est une association caritative dont le but est de récupérer les pelotes de laine, les morceaux de tissu, les choses qui traînent un petit peu dans les placards et que les gens n'utilisent plus, pour les recycler en ouvrage, en vêtements chauds plus précisément, que l'on distribue ensuite essentiellement pendant l'hiver aux plus démunis.
Qui vous donne ces pelotes de laine que vous utilisez?
Alors en fait, on a pas mal utilisé les réseaux sociaux pour communiquer parce qu'effectivement, c'est le moyen le plus simple et le plus rapide et le plus efficace pour l'instant. Enfin, en tout cas, dans les débuts de l'association pour faire appel aux dons. Donc on a lancé un petit peu des messages et les personnes nous ont répondu et sont venues nous apporter ce qu'ils avaient et dont ils ne se servaient plus. Ce qui nous a permis de collecter un petit stock pour pouvoir débuter puisque l'association est assez jeune. Elle a 2 ans à peu près.
Et il y a beaucoup de gens qui ont des pelotes de laine qui traînent au fond de leur tiroir.
Bien plus que ce que l'on croit, en fait, on cumule quand on fait du créatif. Ben c'est vrai que moi je comprends tout à fait. On s'emballe un petit peu dans les magasins, on achète de ci de là, et puis au fur et à mesure du temps, peut-être on passe à autre chose. Et du coup, on garde tout ça en se disant que peut-être un jour on va reprendre les aiguilles ou la couture ou que sais-je. Et en fait, on s'est rendu compte ben qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans ce cas-là. Pour le coup, ça les débarrasse aussi un petit peu, ça leur fait de la place et nous, ça nous permet de continuer notre action.
Et puis c'est écologique aussi par la même occasion. Quand vous dites que vous tricotez des vêtements chauds, on pense tout de suite à des pulls, mais j'imagine que vous ne vous arrêtez pas là.
Non, et puis c'est vrai que nos bénévoles sont très imaginatives et très créatives parce qu'on récupère pas toujours des pelotes complètes, ce qui nous permet pas toujours de faire des pulls par exemple parce que ça nécessite quand même un certain nombre de pelotes de laine. Donc du coup, ça peut être des bonnets, des écharpes, des mitaines. Donc ça c'est pour les enfants et les adultes, mais on fait aussi pour les bébés de la layette. Donc ça c'est nos seniors qui ont le savoir-faire et elles font des choses très très mignonnes, des petits chaussons de naissance, des bonnets, des brassières. On fait des ponchos, des chaussettes, voilà, tout un tas de choses. Et puis c'est vrai que plus elles ont des idées, mieux c'est, parce que du coup, ça permet d'étoffer un petit peu les gammes qu'on va proposer ensuite aux associations partenaires.
Et ces vêtements, vous les distribuez à qui ? À d'autres associations ou directement aux sans-abri lors de maraudes, par exemple, dans la rue ?
Alors effectivement, ma grand-mère qui est à l'origine de ce projet, puisqu'elle, elle a fait ça depuis plus de 30 ans, si c'est pas pour dire toute sa vie, elle tricotait, elle, de son côté, elle faisait des maraudes dans Bordeaux, au départ, rue Sainte-Catherine. Maintenant, elle a 89 ans, donc ça commence à devenir compliqué. Ceci dit, elle était encore l'hiver dernier en train de distribuer sous les grêlons les écharpes et les bonnets au sans-abri.
À 89 ans.
89 ans, oui, voilà. Donc on va prendre un petit peu le relais, et pour ça, c'est vrai que je fais quand même appel aux associations, parce que eux, ils connaissent bien les bénéficiaires. Donc on travaille en partenariat avec la Banque Alimentaire, les Restos du Cœur, la cantine de Johan, on travaille avec les hôpitaux également, les cliniques, la maternité, les services de pédiatrie, de néonat aussi également. Et puis, il y a aussi des associations qui s'organisent pour faire des maraudes directement. Ils passent par la distribution de repas, et ensuite ils distribuent aussi des choses, des vêtements chauds. Du coup, on passe par eux pour l'instant. Après, j'avais dans l'idée effectivement qu'on fasse, nous, avec quelques bénévoles, des maraudes, mais avec la crise sanitaire qui a eu lieu, c'était un petit peu compliqué de se réunir et de partir dans la rue. Donc pour l'instant, on confie la tâche, on va dire, aux associations qui déjà participent à cette distribution. Mais je pense qu'on fera quand même des maraudes cet hiver entre nous, en petits groupes.
Alors vous l'avez dit, votre association, vous l'avez créée il y a 2 ans. Vous êtes combien de street-coteuses aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on est plus de 90 tricoteuses. J'ai pas encore réussi à avoir un homme dans l'association, si ça vous intéresse d'ailleurs.
Ah bah écoutez, je ne sais pas encore tricoter, mais je serais ravie d'apprendre. Juste pour terminer, vous avez un rendez-vous dimanche, je crois, à Margaux-Cantenac, au nord de Bordeaux. Qu'est-ce qui est prévu ?
Oui, pour nous, c'est un rendez-vous très important parce que c'est notre premier événement de l'association. Donc, ce qui est prévu, c'est une exposition photo, puisque nous étions 3 photographes amateurs et professionnels et moi-même à prendre en photo 6 à 7 de nos bénévoles en début d'année. On a retravaillé les photos, on a réussi à obtenir des tirages de la part d'un partenaire qui est Photostore au Pyrénées-Médoc, et obtenir une salle que l'association Médoc Tiers-Lieux nous a gracieusement offerte pour cet événement-là. Donc, il y aura une salle qui exposera un petit peu nos bénévoles pour les mettre en lumière, puisqu'elles travaillent, on va dire, un petit peu dans l'ombre quand même. Et ensuite, nous allons en profiter pour exposer les ouvrages qu'on fabrique, pour montrer aux gens que ça va du plus simple au plus compliqué et que tout le monde peut s'impliquer dans ce projet caritatif.
On mettra peut-être aussi créer des vocations. Effectivement.
Oui, peut-être créer des vocations. Donc, on a aussi un stand d'animation pour justement initier au tricot pour ceux ou celles que ça intéresse. Et également un stand pour promouvoir un petit peu aussi l'association, avec des inscriptions, des informations et des ventes de produits faits spécialement pour cette journée-là.
Merci beaucoup Marina Dumas de nous avoir partagé votre belle initiative, votre association des street-coteuses. Donc, bravo à vous et à bientôt sur Europe 1.
Merci beaucoup, merci à vous.
Merci d'écouter Europe 1 et avec Grand Corps Malade qui a eu la bonne idée d'inviter la chanteuse Kim Burrows. C'est nos plus belles années.
Même si c'est tentant de fuir le présent, s'il te plaît, ouvre les yeux. Fais de ton mieux.
Prisonnier du doute, pas vraiment du passé. Trop d'ombre sur la route, je vois plus les tracés. Et je me rappelle en folie mon panel de prolo. J'ai la mélancolie du bordel en colo. Rire de tous nos sens et des heures à vanner. Insolente innocence de mes plus belles années. D'événements imparfaits, un passé pas si simple, des sourires en trophée. Puis la mélancolie, je la mêle au présent. C'est la belle embellie, des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur. Déconfiner l'espoir, pour continuer d'y croire, je t'envoie un faire-part. Le faire-part du mariage entre nostalgie et destin. Quand l'un nourrit l'autre, faire du futur un festin.
Je veux retrouver l'attrait de notre vie d'après.
Grand Corps Malade en duo avec Kimber Rose, c'était nos plus belles années sur Europe 1, titre inédit, extrait de la réédition de l'album Mesdames, sorti vendredi dernier.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h28, bon réveil à vous sur Europe 1. Vous avez peut-être pris l'habitude d'analyser votre sommeil ou vos performances sportives après le traditionnel footing matinal. Eh bien, est-ce que vous pourriez pas analyser votre façon de conduire?
Oui, il existe désormais une application pour ça, avec en plus la promesse de payer moins cher votre assurance auto. La plateforme de covoiturage Blablacar s'est associée à l'assureur L'Olivier pour lancer un coach de conduite. On en parle dans 10 minutes avec le responsable assurance chez Blablacar.
À suivre également le cinéma dans la prescription culture. Mercredi, eh bien, c'est jour de sortie avec Laurie Choleva. Elle va nous parler notamment d'un film qui l'a transporté sur une autre planète, Dune, du réalisateur québécois Denis Villeneuve. Mais avant, la météo avec vous, Anissa Haddadi. Grande prudence ce matin dans 13 départements en vigilance orange.
Oui, alors il s'agit de l'Allier, la Creuse, la Haute-Vienne, la Corrèze, le Puy-de-Dôme, le Cantal, le Lot, l'Aveyron, le Tarn-et-Garonne, l'Hérault, le Gers. Alors pour ces 12 départements-là, nous avons une vigilance orange pluie inondation. D'ailleurs, il pleut hein, actuellement sur ces départements. Et puis le 13e département, c'est le département du Gard qui a été très touché hier et qui est en vigilance orange crue inondation et orage. Alors grande prudence puisque nous avons effectivement déjà pas mal de pluie entre Rodez et Clermont-Ferrand jusqu'à Montluçon. Beaucoup de pluie quand on regarde les cartes entre Saint-Étienne et Lyon. Mais attention, dans la matinée, nous avons un nouvel épisode pluvio-orageux très fort qui arrive sur l'Hérault et le Gard où là on attend une nouvelle fois aujourd'hui 80 à 100 mm d'eau sur des sols déjà gorgés d'eau et inondés. On va évidemment suivre ça de près et vous tenir au courant sur Europe 1. Alors dans l'après-midi, les orages vont remonter jusqu'au nord-est, hein, jusqu'en Alsace. Des orages qui seront forts sur le Lyonnais. Là aussi, on va surveiller de près, puisqu'il y aura des orages violents, beaucoup d'eau sur le Lyonnais et des gros coups de vent. Et puis plus à l'ouest, quand même, du centre-Val de Loire jusqu'à la région parisienne, là c'est plus calme. On a de la pluie, hein, mais ce sont des averses. Et puis en Bretagne et en Normandie, le long des côtes de la Manche, c'est le soleil qui est de retour. Les températures, on va perdre un petit peu, 2 à 3 degrés, 19 à Cherbourg, 23 à Paris et Strasbourg, 25 à Nîmes, 28 à Carcassonne, et très chaud en Corse avec 33 degrés pour Ajaccio.
Merci Anissa Haddadi. Très bon réveil à tous, à l'écoute d'Europe 1, votre journal, 5h30.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
La première fois que je vois une catastrophe pareille, c'était au-delà d'impressionnant. C'est vraiment des pans entiers de murs, de maisons qui étaient par terre.
Anissa nous en parlait à l'instant. Plus de 2 mois de pluie en quelques heures. La maire de cette commune que vous venez d'entendre du Gard sous le choc après le passage des orages. 13 départements sont toujours en alerte orange ce matin. Emmanuel Macron veut remettre du bleu sur le terrain. Le président veut doubler la présence des policiers dans nos rues et mieux les former. À 7 mois de la présidentielle, le chef de l'État lance son opération séduction vaccination auprès des forces de l'ordre. L'obligation vaccinale entre en vigueur aujourd'hui pour l'ensemble des personnels soignants. Les opposants sont minoritaires, mais la mesure menace de désorganiser la chaîne des soins. Et puis un petit tour dans l'espace et puis s'en va. Quatre touristes s'offrent 3 jours de voyage en orbite à bord d'une capsule SpaceX. Une première dans l'histoire de la conquête spatiale. Et le journal de 5h30 vous est présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. La vigilance reste à l'ordre du jour sur une bonne partie sud de la France où l'on attend encore beaucoup de pluie. Hier, les orages se sont succédés avec une rare violence, notamment dans le Gard où une personne est toujours portée disparue ce matin. Le département paie le plus lourd tribut avec des dégâts considérables dans la région de Nîmes. Certaines routes restent impraticables même si l'autoroute A9 a été rouverte dans les deux sens. La circulation des trains est également difficile, notamment entre Nîmes et Montpellier, où elle est toujours interrompue. La SNCF n'envisage pas une reprise du trafic avant la fin de la semaine. Enfin, les écoles resteront fermées aujourd'hui.
Le Gard qui a été sans doute le plus touché par cet épisode pluvio-orageux d'une rare violence.
Plus de 2 mois de pluie en quelques heures seulement. Voilà la quantité d'eau qui s'est abattue sur le département. La commune de Vergèze, à une vingtaine de kilomètres au sud de Nîmes, a particulièrement souffert de ces orages. C'est même du jamais vu, selon la maire Pascal Fortuna Deschamps.
Moi, je suis une Vergézoise depuis toujours. C'est la première fois que je vois une catastrophe pareille, quoi. C'était au-delà d'impressionnant. C'est vraiment des pans entiers de murs, de maisons qui étaient par terre. Voilà, on est quand même très contents parce qu'on n'a aucune victime. Par contre, les dégâts matériels, bah, il est trop tôt, hein, pour chiffrer quoi que ce soit. C'est des quartiers entiers qui ont été sinistrés, évidemment, les habitations et les gens qui ont perdu beaucoup, et certains même tout perdu. On a ouvert un centre d'hébergement et on a recueilli des gens de la SNCF, puisqu'on a un TGV et un TER qui étaient coincés en gare de Vergèze, puisque les voies ferrées étaient sous l'eau. Des collégiens qui n'ont pas pu rentrer chez eux et des personnes qui étaient sur l'autoroute et qui ne pouvaient plus non plus reprendre la route. On va aider les gens, on va faire un état des lieux, on va essayer de mutualiser des moyens, on va être aidés par le département. La priorité, là, c'est de reconstruire et puis surtout d'aider les gens à retrouver leur maison.
Un témoignage de la maire de la commune de Vergèze recueilli par Caroline Baudry. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place. L'état de catastrophe naturelle devrait être déclaré la semaine prochaine.
Emmanuel Macron a dévoilé hier son plan pour la sécurité et le chef de l'État n'a pas lésiné sur les moyens.
Une rallonge de 500 millions d'euros dès l'année prochaine et des annonces en pagaille. Le président, pas encore officiellement candidat, a dévoilé une batterie de mesures à l'issue du Beauvau de la sécurité. Généralisation des caméras piétons, allègement des procédures. Gladys Laffitte, le chef de l'État, veut doubler le nombre de policiers et de gendarmes sur le terrain. Est-ce que c'est possible en l'état ?
Oui, mais pour ça, il faudrait déjà savoir combien de policiers et gendarmes sont affectés au terrain. Et cette distinction n'existe pas. Seul le nombre d'heures de patrouille sur la voie publique est comptabilisé. 60 millions d'heures par an, police et gendarmes confondus. Alors, il faudra sans doute recruter, mais l'objectif, c'est surtout de dégager du temps aux policiers déjà en fonction, les décharger des tâches administratives et surtout réformer les cycles horaires des fonctionnaires. C'est un vieux serpent de mer. Des réformes ont déjà été testées sans vraiment de succès global jusqu'ici. Gérald Darmanin a jusqu'à janvier pour finaliser des discussions sur ce thème.
Gladys, des mesures étaient aussi attendues sur la formation. Qu'est-ce qui a été annoncé ? Est-ce que c'est une nouveauté ?
D'abord, le passage de 8 mois à 1 an de la formation des gardiens de la paix, mais cela avait déjà été annoncé en avril. Ensuite, l'entrée en école dans les 6 mois après la réussite du concours pour éviter que les admins aillent chercher du travail ailleurs à force d'attendre. La formation continue sera, elle, augmentée de 50% et unifiée via une académie de police près de Montpellier. Enfin, policiers et gendarmes pourront se former au maintien de l'ordre et aux violences urbaines dans un nouveau centre qui sera créé en région parisienne en complément de celui qui existe déjà pour les gendarmes en Dordogne.
Gladys Laffitte.
Nous sommes le mercredi 15 septembre et c'est donc aujourd'hui qu'entre en vigueur l'obligation vaccinale pour les soignants.
À partir de maintenant, ils doivent justifier d'un parcours vaccinal entamé ou complet, sinon ce sera la suspension sans indemnité. Il faut rappeler que la très grande majorité des soignants, les infirmières, les médecins sont déjà vaccinés. Une minorité continue de résister et de dire non au vaccin avec le risque de désorganiser un peu plus le système de soins.
Et ce n'est pas sans poser problème dans les régions menacées par ce que l'on appelle désert médical.
Et c'est le cas de Charmoy-l'Orgueilleux dans les Vosges. Ce village de 600 habitants devra faire sans son médecin généraliste qui refuse la vaccination. Il a donc fermé son cabinet et les habitants se retrouvent esselés. Reportage Mélina Fachin.
Après 37 ans d'exercice, le docteur Gauthier Bain va fermer son cabinet ce matin. L'obligation vaccinale à laquelle il se refuse catégoriquement a accéléré son départ à la retraite.
Je suis un citoyen et j'ai aussi le droit de choisir si je veux me faire
injecter ce produit ou pas. Moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout mes patients.
La solution la plus simple, ce ne serait pas à vous de la prendre. Si vous vous faisiez vacciner, il n'y aurait pas de problème là tout de suite.
C'est sûr, mais je ne pense pas que le bénéfice soit de me faire injecter ce produit-là.
Le médecin a un millier de patients et ce sont eux les plus inquiets, à l'image d'Aurélie, la gérante du bar.
Au village, on va se retrouver sans médecin. Et le problème qui se pose, c'est qu'à cette heure-ci, quand on appelle les autres médecins, eh ben là, 10-15 km, ils sont complets, donc j'ose pas imaginer plus. Je pense après, ça va être 20-25.
Pour le maire, Éric Delmissier, cela semble inévitable. Son village va devenir un désert médical.
Un service qui s'en va, il ne reviendra jamais. Il faut 10 ans pour former un médecin. On ne les a pas prévus il y a 10 ans, en sachant que la population française vieillissait. Ils ne reviendront jamais. C'est parti, c'est parti.
Il a bien essayé de proposer des solutions à l'ARS, par exemple faire venir un médecin de ville au moins un jour par semaine. Mais pour l'instant, il n'a obtenu aucune réponse. Charmois l'Orgueilleux, Mélina Fachin, Europe 1.
Allez, prenons maintenant un peu de hauteur. Ça ne nous fera pas de mal après ce qu'on vient d'entendre. C'est une première dans l'histoire des missions spatiales. Des touristes vont s'offrir un voyage en orbite.
Oui, SpaceX, la propriété d'Elon Musk, le patron de Tesla, décollera la nuit prochaine avec 4 touristes à bord. Ils vont passer 3 jours dans l'espace sans aucun astronaute professionnel avec eux. Ça, c'est important. Et c'est une expérience unique, comme l'explique Jean-François Clairvoy, spationaute à l'Agence spatiale européenne.
Le vaisseau est occupé par 4 non-professionnels, ce que permet le vol spatial aujourd'hui grâce à la vision d'Elon Musk qui a conçu ce vaisseau très automatisé. Il n'y a pas de manche de pilotage, il y a 100 fois moins d'interrupteurs que dans la navette spatiale. Et puis, la grande différence entre les missions dont on a parlé en juillet de Virgin Galactic et de Blue Origin, qui sont des missions de 2 à 3 minutes dans l'espace, là, ils vont vivre 16 tours du monde par jour. Donc un panorama de la Terre sous toutes les coutures, les océans, les déserts, les forêts tropicales, les montagnes. Ils vont vivre, ils vont partager des repas, ils vont partager des périodes d'éveil, de sommeil. Ils sont dans un vaisseau sans tâches opérationnelles à accomplir. C'est un peu comme si un avion de ligne volait sans pilote. Donc ils vont le vivre pleinement avec leur trip, en étant en relation avec le centre de contrôle. Et ça restera un moment très très fort à jamais dans leur vie. C'est pour ça que j'apprécie le nom de cette mission qui s'appelle Inspiration, Inspiration.
François Clairvoy, spationaute à l'Agence spatiale européenne. Le football et les grands débuts du PSG version Messi, Mbappé, Neymar en Ligue des Champions. Ce soir, premier match de la phase de groupe face à Bruges à 21h. Et puis hier, sachez que Lille a été accrochée sur sa pelouse 0-0 contre Wolfsburg.
Et ce match Bruges-PSG, vous pourrez le vivre en direct et en intégralité sur Europe 1 soirée spéciale à partir de 20h. C'était le journal de Christophe Lamar. Merci Christophe. On passe aux courses. Les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est sur l'hippodrome de Compiègne que se disputera ce Quintet. Un handicap réservé aux poulains et pouliches âgés de 3 ans. Et parmi les 16 partants, difficile de ne pas faire confiance au numéro 2 Caviar et 12 Romanosa, qui pour leur première participation à un Quintet le 17 août à Deauville, se sont classés respectivement 3e et 5e. Et ils n'ont qu'à répéter cette performance pour conclure une nouvelle fois dans les 5 premiers. On leur opposera les numéros 11 Kaliska, facile lauréate en dernier lieu à Deauville, d'une deuxième épreuve de Quintet qui, sur sa lancée, doit pouvoir franchir un nouveau palier. 4 Jazz Hennessy, pour laquelle son entraîneur Christophe Escuder n'hésite pas à effectuer un long déplacement depuis Marseille, non sans avoir quelques certitudes. Et 7 Asterella, qui dépend de l'entraînement de Michael Delzangle, dont tous les pensionnaires ne cessent d'engranger les bons résultats. Enfin, les numéros 5, Maria Amalia, 6, Libertine et 16, Zahir, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 2, 12, 11, 4, 7, 5, 6 et 16.
Des pronostics à retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci Thierry Léger et à demain. Il est 5h40 et on s'installe dans votre voiture, voilà, juste à côté de vous.
Avec plaisir.
Conduire de manière plus sûre et plus écolo, c'est l'ambition d'une nouvelle application sur smartphone qui va analyser votre conduite et vous conseiller, avec en plus la promesse de payer votre assurance auto moins cher. Cette appli a été lancée par la plateforme de covoiturage Blablacar associée à l'assureur L'Olivier. On en parle dans un instant avec le responsable assurance chez Blablacar. À tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce. Votre matinale info sur Europe 1.
5h42, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes peut-être au volant de votre voiture. C'est l'un des plus gros postes des dépenses. Et si votre assurance auto vous coûtait moins cher, 263 euros d'économie annuelle en moyenne, c'est la promesse du leader mondial du covoiturage Blablacar qui s'est associé à l'Olivier Assurance. Mais en contrepartie, il faut installer une application qui analyse votre conduite et vous donne des conseils. Comment ça marche exactement? Eh bien, on en parle en bline avec Gwenaël Moi, responsable assurance chez Blablacar.
Bonjour Gwenaël Moi.
Bonjour.
Blablacar est à l'origine une plateforme de covoiturage qui propose des services à une communauté. Elle permet de mettre en relation ses utilisateurs. Vous vous êtes ensuite lancé dans le service d'autocar. Pourquoi l'assurance auto à présent ?
Eh bien, l'assurance auto est un poste de dépense important pour nos conducteurs qui font du covoiturage pour un aspect social, mais aussi pour réaliser des économies. Donc, nous avons voulu, d'une part, leur permettre de réaliser ces économies aussi sur le coût de leur assurance auto. D'autre part, la sécurité sur les routes et l'éco-conduite sont des éléments très importants pour Blablacar, font partie de nos valeurs. Et nous avons voulu trouver une solution d'assurance qui permettait de conjuguer les deux. Et c'est ce que nous avons fait avec cette nouvelle offre que nous avons lancée avec l'Olivier, associée à cette application où, pour la première fois, nous mettons à disposition un moyen sur son smartphone de pouvoir mieux comprendre la façon dont on conduit et d'améliorer à la fois la sécurité et réduire l'impact environnemental du transport.
L'offre est accessible à tous les conducteurs, hein, même ceux qui ne pratiquent pas le covoiturage.
Oui, absolument. C'est une offre qui est ouverte à tous. Tous ceux qui sont sensibilisés à la fois au fait de faire des économies et sur cette éco-conduite. Mais lorsque vous covoiturez, vous avez des avantages en plus. Notamment, c'est une assurance qui annule les franchises lorsque vous avez, si vous arrive quelque chose pendant un covoiturage. Donc, c'est un avantage supplémentaire. Mais l'assurance, elle est effectivement accessible à tous les conducteurs en France.
On le disait, cette offre est accompagnée d'une application qui analyse le comportement du conducteur au volant. En quoi ça consiste exactement? Comment ça se passe sur l'appli?
Alors, tout simplement, lorsque vous choisissez cette assurance, vous avez la possibilité de télécharger et de vous connecter sur cette application, ce qui, au passage, vous donne des réductions supplémentaires sur l'assurance. Et ensuite, cette application, lorsque vous avez votre téléphone dans la voiture, va mesurer les accélérations fortes, les freinages brusques, éventuels changements de direction intempestifs, mais aussi l'usage que vous allez faire de votre téléphone pendant la conduite, ce qui n'est quelque chose qui n'est pas recommandé du tout. Et ensuite, elle va vous permettre de visualiser tous ces événements qui se sont passés pendant votre trajet et vous permettre ensuite de les analyser et d'obtenir des notes qui vont vous indiquer de quelle façon vous conduisez. Ensuite, vous donner des conseils pour améliorer votre conduite et notamment réduire la consommation et le risque d'accident, ce qui est pour nous évidemment très important.
Moi, ça me fait penser aux applications de course à pied qui analysent nos performances. C'est un petit peu le même principe?
Oui, absolument, avec une technologie qui est encore plus pointue derrière, puisque nous utilisons énormément les capteurs que vous avez dans votre téléphone, mais aussi les mesures GPS de façon précise. Et nous avons validé cette technologie avec des laboratoires de recherche afin de s'assurer de l'exactitude de tout ce que nous allons proposer. Mais c'est un peu dans le même esprit, effectivement.
Si on veut souscrire à votre assurance, l'appli n'est pas obligatoire?
Non, vous pouvez décider de bénéficier de cette offre que nous avons lancée avec l'Olivier, de manière classique, je dirais, avec soit une assurance au tiers ou l'assurance tout risque. Par contre, l'intérêt de télécharger cette application, qui ne vous engage à rien, si ce n'est qu'il vous donne des moyens supplémentaires d'améliorer votre conduite, et ça, dans l'esprit, c'est pour nous très important, mais vous ne bénéficiez pas de cette réduction supplémentaire qui s'applique si vous optez pour ces principes de bonne conduite, mais qui vous restent très personnels.
Est-ce qu'on ne risque pas de se sentir fliqué? Par exemple, j'ai la fâcheuse habitude de faire des à-coups, ou peut-être qu'il va m'arriver de conduire un peu au-dessus des limitations de vitesse. Est-ce que je vais être sanctionné? Est-ce que je vais payer plus cher?
Alors non, il n'y a pas d'impact tarifaire sur l'assurance, ni pendant votre année d'assurance, ni au renouvellement éventuel de votre contrat d'assurance. Et ce n'est pas du tout l'esprit. L'esprit, c'est de vous donner les moyens de visualiser la façon dont vous conduisez et de vous rendre compte de ces à-coups que vous faites ou de ces survitesses que vous pouvez avoir. Ça, c'est quelque chose de nouveau dans l'approche. C'est-à-dire pour la première fois, un assureur vous permet, avec votre téléphone, de mieux comprendre la façon dont vous conduisez et donc de vous donner les moyens d'améliorer votre conduite.
Que faites-vous des données récoltées ? L'important de la vie privée, aujourd'hui, tient à cœur à tous les Français.
Évidemment, c'est de plus en plus important, cet aspect de protection des données. Et évidemment, toute cette collecte de données qui, avant tout, est là pour vous permettre de mieux comprendre la façon dont vous-même conduisez, est encadrée par les règles de GRPD, de façon à ce que tout ça soit protégé, ne soit pas accessible à des tiers. Et nous avons des usages de recherche qui peuvent se faire ensuite, mais de manière collective et sur des datas qui ne sont pas individualisées. Donc tout ça est parfaitement encadré et réglementé.
Merci beaucoup Gwenaël Moy d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes le responsable assurance chez Blablacar.
Merci à vous. Au revoir.
Alors comme ça, Ambine, vous conduisez parfois un peu au-dessus des limitations de vitesse.
C'était pour l'exemple, voyons, ouais. Pas du tout. Non, maman, je conduis pas au-dessus des vitesses, promis. Il est 5h47, excellent début de matinée sur Europe 1, nous sommes le 15 septembre, mercredi. Le mercredi, c'est cinéma avec Laurie Choleva. Bonjour Laurie.
Bonjour à tous, bonjour Ambline, bonjour Julien.
Laurie, on fait le tour des sorties du jour avec vous et si on aime la science-fiction, vous avez le film qu'il nous faut.
Oui, avec clairement le film le plus attendu de l'année, Dune, du réalisateur de Prisoners ou encore Sicario, Denis Villeneuve. Alors, l'attente a été longue, c'est vrai, Covid oblige, mais ça en valait la peine. Denis adapte donc, pour rappel, le roman mythique de science-fiction de Frank Herbert et je vous arrête tout de suite. Non, pas besoin d'avoir lu le roman pour comprendre le film. C'est un film qui va se passer en deux parties. La deuxième partie n'est pas encore tournée et elle le sera qu'en cas de succès. Mais ça, je pense qu'il n'y a pas trop de risques. Alors, si vous hésitez à y aller, sachez que vous n'avez jamais rien vu de tel au cinéma. Une mise en scène, une esthétique, un jeu d'acteurs, de lumière, d'effets sonores, c'est du grand cinéma de science-fiction et surtout, c'est une expérience à vivre à tout prix.
Hey, Duncan, je peux te faire confiance ?
Oui, toujours, tu le sais.
J'ai fait des rêves dernièrement. J'ai rêvé d'une fille sur Arrakis. Je ne sais pas ce que ça signifie.
Les rêves font de bonnes histoires. Mais le plus important se passe quand on est éveillé.
Regarde-toi, t'as pris du muscle,
tu crois ?
Non.
Alors, Dune suit les aventures de Paul Atreides, joué par Timothée Chalamet, qui arrive avec sa famille et son peuple sur la planète désertique Arrakis. Et là, évidemment, ça ne va pas très bien se passer. Une première partie donc qui suit sa quête identitaire pour lui, qui est désigné comme étant l'élu face à Timothée Chalamet, deux grands acteurs, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Charlotte Rampling ou encore Javier Bardem.
Bref, que du beau monde. Autre sortie, Laurie, cette fois signée Laurent Lafitte, qui s'est essayé pour la première fois à la réalisation.
Oui, et quand on voit la réussite de son film, on se demande pourquoi il l'a pas fait avant. Laurent Lafitte, donc pensionnaire de la Comédie française, acteur spécialiste de l'humour noir, adapte cette semaine L'Origine du Monde, une pièce de théâtre de Sébastien Thierry. L'histoire, ou plutôt la mésaventure de Jean-Louis, donc incarné par Laurent Lafitte, un avocat en vue, qui réalise un beau jour que son cœur s'est arrêté de battre alors qu'il continue de respirer. Donc techniquement, il est vivant, mais peut-être qu'il est mort, mais en fait, il est vivant.
Écoute mon cœur.
Je t'écoute.
Non, écoute mon cœur. Ah, oui. Alors, qu'est-ce qui m'arrive ?
Je comprends rien.
C'est ahurissant. Ton cœur ne bat plus.
Et c'est grave ?
Disons que quand on est mort, c'est pas grave. Mais étant donné que t'as l'air vivant, c'est préoccupant. Je vais te réanimer.
Je suis animé ?
Je préfère te briser deux ou trois côtes que te regarder mourir.
Bon, ça plante le décor et surtout l'univers de Laurent Lafitte qui ose beaucoup de choses dans ce film et qui va très très loin avec surtout une scène finale d'anthologie, mais je ne vous en dis pas plus. Laurent Lafitte nous explique en revanche pourquoi il a voulu faire ce film.
J'ai voulu faire le film que moi en tant que spectateur j'attendais. Ce qui est important, je pense, c'est d'être sincère. Et nous on a essayé d'aborder cette histoire comme un drame, ce que c'est, hein, c'est quand même un drame, mais un drame qui fait rire. Mon but ultime, c'était vraiment de faire rire, de provoquer les rires, et ça a été mon obsession pendant toute la fabrication du film.
L'Origine du Monde de Laurent Lafitte et Dune de Denis Villeneuve. Voilà donc les deux films à aller voir absolument en salle cette semaine. Merci Laurie Choleva.
Merci à vous.
Et on vous retrouve samedi à partir de 14h dans votre émission Clap.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h51, le journal permanent avec Alban Le Prince.
Environ 9 soignants sur 10 ont reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus. Ce matin, c'est une condition à respecter à partir d'aujourd'hui pour pouvoir travailler. Sinon, ils risquent la suspension et ne seront pas payés. Les écoles restent fermées aujourd'hui dans le Gard après le déluge qui s'est abattu sur le département. Hier, l'équivalent de 2 mois et demi de pluie en 3 heures. Une personne est toujours recherchée. La circulation reprend difficilement. Sur la 9, il n'y a pas de train entre l'université
Lunel et Nîmes. Les militants Les Républicains doivent trancher le 25 septembre. Ils vont choisir entre un congrès du parti et une primaire ouverte pour désigner leur candidat à la présidentielle de 2022. Annonce de Christian Jacob, président LR hier. Messi, Neymar, Mbappé, le trio fait autant rêver qu'il terrifie. Il pourrait jouer ce soir pour l'entrée en piste du PSG en Ligue des Champions. Paris qui rencontre Bruges à partir de 21h. Match à vivre en direct sur Europe 1 avec Lionel Rousseau et ses experts.
Europe Matin.
Voilà pour l'actualité nationale et internationale. Et on va maintenant au plus près de chez vous avec vos quotidiens régionaux. C'est en France, un article raconté par celles et ceux qui l'ont écrit.
Bonjour Gaëlle Flétour.
Bonjour.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes journaliste à Ouest-France où l'on peut lire ce matin un article que vous avez écrit, dossier au titre en forme d'avertissement. Pourquoi le prix de vos courses devrait flamber? Pourquoi alors?
Alors la raison, c'est que le Sénat s'apprête à examiner mardi 21 septembre une réforme en fait de la loi alimentation, surnommée Egalim, qui vise à mieux rémunérer les agriculteurs et les industriels, et puis aussi bien sûr mieux prendre en compte l'explosion des matières premières qu'on connaît actuellement. Et conséquence, ça devrait se traduire sans doute par une inflation des prix des produits alimentaires. Donc le caddie risque de bientôt voir son prix flamber.
L'inflation de ces matières premières, vous nous en donnez d'ailleurs un exemple à travers la biscuiterie La Mère Poulard.
Oui, tout à fait. Vous connaissez probablement ces biscuits qu'on trouve en grande surface ou qui sont aussi vendus au Mont-Saint-Michel. Et par exemple, le dirigeant de cette biscuiterie me racontait que lui, il a vu voir énormément progresser les prix des boîtes qui sont fabriquées en Chine et dont maintenant le transport lui coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Il voit aussi le prix du beurre qui progresse de 15%, les plastiques d'emballage de 20%, les cartons de 12%. Et donc tout ça, il dit il est nécessaire pour lui, par exemple, d'augmenter le prix de sa boîte de 12% s'il veut réussir à rentrer dans ses frais et à ne pas perdre de l'argent sur ses biscuits.
Donc pour protéger les marges des agriculteurs et des industriels de l'agroalimentaire, comme cette biscuiterie La Mère Poulard, cette réforme de la loi dite Egalim va être examiné prochainement. Qu'est-ce qui va changer si cette réforme de la loi dite Egalim est adoptée?
En fait, elle va changer dans ce cas-là les règles du jeu lors des négociations commerciales, ces détractations qui se passent annuellement entre novembre et février, entre les industriels et la grande distribution, et durant lesquelles ils se mettent d'accord sur le prix des produits alimentaires. Et en fait, dans ces cas-là, les règles du jeu changeraient, c'est-à-dire qu'il faudrait mieux prendre en compte les coûts pour les agriculteurs dans les matières premières, en fait, des produits qui ensuite transformés par les industriels.
Et donc les prix devraient mécaniquement augmenter pour nous autres consommateurs. On sait à peu près de quel ordre?
Alors c'est difficile de savoir de quel ordre. L'ANIA, qui représente l'Association nationale de l'industrie agroalimentaire, estime qu'il faudrait environ 1,50€ par ménage et par mois comme effort. Après, ça va vraiment dépendre en fait du prix des produits, c'est-à-dire qu'il y en a certains comme le lait, comme la viande bovine qui serait le plus touchée parce que les agriculteurs estiment qu'il y a vraiment un gros rattrapage à faire. D'autres produits plus traditionnels seront peut-être un petit peu moins impactés.
Merci beaucoup Gaëlle Flétour de nous avoir fait découvrir votre article à lire aujourd'hui donc dans Ouest-France. Bonne journée et à bientôt.
Merci beaucoup. Merci, belle journée. Au revoir.
C'est le plus américain des groupes écossais avec l'indéboulonnable Charlene Spitry, Texas, avec Mr. Hayes sur Europe 1.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Excellent réveil avec nous sur Europe 1, 5h57. Hi. On vous invite à rester avec nous. Hi, si vous arrivez, parce que ce qui va suivre va vous interpeller.
Imaginez une entreprise où du jour au lendemain, plus d'un salarié sur 10 ne peut plus travailler. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer dans nos hôpitaux et maisons de retraite. Depuis aujourd'hui, tous les personnels y travaillant doivent avoir reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid. C'est obligatoire. Et le problème, c'est que près de 300 000 ne l'ont toujours pas fait. Ils vont donc être suspendus. Comment s'organiser? Comment les remplacer? Autant de questions qu'on va poser dans un quart d'heure à la directrice de la FNADEPA, fédération représentant les directeurs d'EHPAD. Et puis juste après, Omblin, votre partition.
Ses premiers cachets, c'est grâce au cinéma qu'il les a perçus. Il enchaînait les petits rôles avant de se faire connaître dans la chanson. Florent Pagny, retour au commencement à 6h20.
Mais avant, retour à l'essentiel, le ciel avec vous, Anissa Haddadi. De nouveaux orages attendus aujourd'hui dans le sud.
Ah oui, alors pour l'instant, nous avons une toute petite accalmie. On va quand même noter les choses positives de la journée. Petite accalmie pour les orages, mais enfin, on a déjà beaucoup de pluie hein, entre le Lot et l'Allier. Il pleut là, de la Loire au Rhône. Donc, si vous nous écoutez entre Rodez et Clermont-Ferrand, entre Saint-Étienne et Lyon, jusqu'à Montluçon, même, il y a beaucoup de pluie du côté de chez vous. Si vous prenez la route, soyez extrêmement prudents, parce qu'en plus de tout ça, on a les brouillards qui sont là ce matin. En fait, c'est en fin de matinée et surtout cet après-midi, Julien, vous le disiez, qu'il va falloir être vigilant avec une nouvelle dégradation pluvio-orageuse très importante qui arrive. Alors, elle sera située entre les Pyrénées et les Cévennes. Évidemment, le Gard et l'Hérault seront encore cet après-midi, ce soir et cette nuit sous des pluies très importantes.
Alors que les cours d'eau sont déjà saturés.
Alors que, bah déjà, oui, les cours d'eau, les rues, il y a de grosses inondations sur le Gard et sur la région de Nîmes. Eh bien, c'est encore une grosse dégradation pluvieuse et orageuse attendue sur ces deux départements. En Auvergne, sur le Lyonnais, et puis dans le centre-est, là aussi, le temps reste très instable. Hein, cet après-midi, on aura beaucoup d'orages, des orages localement forts avec des chutes de grêle. 13 départements, vigilance orange. Il y a que dans le nord-ouest que ça va bien, au bord de la Manche.
Prudence donc dans le sud. Merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1, très bon réveil à tous, c'est le journal. Il est 6h.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
J'ai encore pas mal de petites personnes âgées chez qui je vais. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Je sais pas. Je pense que pour faire bouger les choses, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Moi, j'irai jusqu'au bout.
Et même jusqu'à la fermeture de son cabinet, cette médecin généraliste que vous venez d'entendre refuse la vaccination, pourtant obligatoire dès aujourd'hui pour les soignants, des réfractaires qui restent minoritaires. Le Gard se réveille sous les eaux après une journée de déluge. Hier, 280 litres de pluie au mètre carré par endroit. De nouveaux orages menace aujourd'hui, on vient de l'entendre avec Anissa Haddadi, alors qu'une personne est toujours portée disparue. Et puis une journée pluvieuse aussi sur une bonne partie du territoire. Le temps idéal pour tester un nouveau jeu vidéo, ça s'appelle Deathloop. C'est français et surtout explosif.
Europe 1.
Le journal de 6h présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Le compte y est, ou presque, dans les hôpitaux et les EHPAD. 89% du personnel a déjà relevé sa manche. Vaccin obligatoire dès aujourd'hui pour les soignants, pompiers, ambulanciers. 2 700 000 personnes. Cette piqûre, une simple formalité pour la majorité. Les autres, une poignée de réfractaires, risquent une suspension. Qu'importe pour le docteur Véronique Roguez, installée à Noyon, dans l'Oise. Elle préfère fermer son cabinet plutôt que de se faire vacciner.
Si je suis ouverte, je risque des sanctions pénales. 6 mois d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende. Je ferme donc mon cabinet. Bon, ben, voilà. Moi, je peux me le permettre. Je suis à 3 ans de la retraite, peut-être. Je peux me permettre de fermer, de continuer à pas me faire vacciner. C'est sûr, c'est dur. Ben, y en a qui se privent pas pour me le dire, hein, que je prends en otage mes patients. J'ai encore pas mal de petites personnes âgées chez qui je vais. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Je sais pas. Moi, je sens fortement que la cause, elle est beaucoup plus grande que ça.
Qu'est-ce qui ferait que vous pourriez rouvrir votre cabinet?
Ça va dépendre de l'État. Il y a beaucoup de gens qui sont autour de nous, qui étudient les recours. Et je pense que pour faire bouger les choses, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Moi, j'irai jusqu'au bout.
Le docteur Véronique Roguez au micro de Nicolas Fellmann pour Europe 1 est justement contre cette obligation vaccinale pour les soignants. Plusieurs centaines de personnes, des milliers même selon la CGT Santé, ont manifesté hier dans toute la France.
Dans le Gard, réveil pénible ce matin pour les habitants qui se préparent à une nouvelle journée sous les eaux. Les écoles, collèges et lycées restent fermés aujourd'hui dans le département.
De nouveaux orages menacent après le déluge hier. 280 litres d'eau de pluie par mètre carré, record absolu dans le département. Des quartiers inondés et des populations sinistrées, soutenues par le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin était à Berny, dans le Gard, hier soir, l'une des 60 communes frappées par ces intempéries.
Plusieurs personnes ont été portées disparues, puis en partie rassurées par les propos qu'on a pu avoir des élus, des pompiers, de la préfecture, des gendarmes, que je remercie une nouvelle fois. Et à ma connaissance, une personne est encore recherchée, dont nous cherchons à avoir effectivement des nouvelles les plus précises possibles. Évidemment, ces recherches continuent avec les élus locaux. Une soixantaine de communes du Gard ont été particulièrement touchées. Je suis venu dire aussi aux élus que dès la semaine prochaine, nous réunirons la commission de catastrophe naturelle avec la ministre de l'écologie pour déclarer l'état de catastrophe naturelle.
Et en plus du Gard, 12 départements sont pour l'instant placés en vigilance orange par Météo France, de l'Allier jusqu'au Tarn, carte qui sera mise à jour dans quelques minutes par Météo France.
6h03 sur Europe 1, la suite de votre journal, Romain Oquet, avec cette marque que l'on connaît tous et qui est peut-être d'ailleurs sur votre table en ce moment de votre petit déjeuner.
L'entreprise Danone qui change de patron aujourd'hui. Antoine de Saint-Affrique prend les rênes du géant de l'agroalimentaire. Il succède à Emmanuel Faber, écarté au printemps après une crise de gouvernance. Et sa mission est claire, relancer Danone, Emmanuel Dutheil.
Il a moins de superbe qu'Emmanuel Faber, mais c'est la personne idoine pour Danone. C'est en tout cas ce que pense ce proche de la direction. Chez Danone, on parle d'Antoine de Saint-Affrique comme l'anti-Faber. Lui, il aime les produits. C'est un commercial. C'est un manager hors pair qui sait qu'il ne peut pas tout faire tout seul. Voilà ce que l'on entend dans les couloirs. Et sa mission ne va pas être simple. Un connaisseur de l'entreprise la détaille. Il doit réussir à résoudre l'équation, prendre soin de l'environnement, des équipes, de la société, bref, de cette utopie d'une certaine manière de Danone, et de refaire de l'entreprise un géant très rentable. Des décisions radicales comme se séparer ou pas de la division eau et donc du célèbre Evian pas assez rentable vont devoir être rapidement tranchées. Même si sur ce point, la carrière de cet homme réputé discret semble plutôt plaider en sa faveur, il a réussi à transformer le géant du cacao, Barry Caïbo. Il saura le faire chez Danone, avance-t-on au sein de l'entreprise.
Portrait signé Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.
Anissa Haddadi nous en parlait juste avant ce journal. Et il va y avoir un temps humide sur une bonne partie du territoire. Prudence dans le Gard avec ses orages à venir. Météo qui invite à rester à la maison et à tester pourquoi pas un nouveau jeu vidéo.
Ça s'appelle Deathloop et comme son nom ne l'indique pas, c'est une création française du studio Arkane à Lyon. Un jeu d'action explosif qui a séduit notre spécialiste Clément Le Saffre.
Deathloop nous place dans la peau de Colt, un homme coincé dans une boucle temporelle sur l'île de Black Reef. Chaque matin, il se réveille sur la même plage et revit encore et encore la même journée. Supplice d'autant plus pénible qu'il est traqué par les leaders de l'île appelés les visionnaires.
Pour tout le monde sur cette île, c'est le paradis, une fête sans fin. Où me donner la chasse est l'attraction principale. Et peu importe comment j'essaie de m'échapper, il me chope toujours.
Pour terminer le jeu, il faut éliminer les 8 leaders de Black Reef dans une seule et même boucle. Mission impossible au début, mais paradoxalement, plus on meurt, plus on avance dans le jeu. Chaque boucle apporte des connaissances et des armes supplémentaires. Une fois bien équipé, charge aux joueurs de trouver le meilleur moyen de survivre à cette journée en enfer.
Qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Et pourquoi elle a toujours un coup d'avance? Allez, Colt, réfléchis à tout ça.
Belle production française, Deathloop se démarque sur deux points. Son ton très cash, un peu comme si Tarantino avait réalisé Un jour sans fin. Et puis l'action à gogo qui rythme le jeu il y a peu de temps mort et on en sort le souffle coupé.
Et ça réveille, en effet, à 6h06. C'était Clément Le Saffre, spécialiste jeux vidéo d'Europe 1.
Et c'était le journal de la dynamiteuse de l'info, Romain Oquet. Merci Romain.
Il est 6h06 et on passe au sport. Le journal des sports avec Martin Lange et on commence avec une grande première, celle de la MNM.
Oui, Messi, Neymar, Mbappé, hein, la nouvelle attaque de rêve du Paris Saint-Germain. Les trois hommes devraient débuter ce soir pour la première fois pour l'entrée en lice du club de la capitale en Ligue des Champions. Le PSG se déplace à Bruges, l'adversaire le plus faible de leur groupe sur le papier. Un bon premier test donc pour les trois stars qui seront aussi attendus offensivement que défensivement, car Messi, Neymar et Mbappé ne sont pas connus pour être des grands fans des efforts défensifs, mais pas de quoi inquiéter le capitaine du PSG, Marquinhos.
Si les trois jouent devant, ils sont des joueurs expérimentés, ils savent de l'importance qui c'est pour une équipe qu'on joue compact, qu'on défend ensemble. Sur le terrain, il faut dire les choses, et ce qui ne va pas, il fallait dire.
Bruges-PSG, hein, c'est à suivre en intégralité sur Europe 1. Soirée spéciale autour de Lionel Rousseau et ses experts à partir de 20h.
La Ligue des Champions qui a débuté hier maintenant avec une soirée frustrante pour Lille.
Oui, le champion de France a dominé mais n'a pas marqué contre les Allemands de Wolfsburg. Match nul 0-0, d'autant plus rageant que les Lillois n'ont joué plus d'une demi-heure en supériorité numérique, hein, et qu'ils se sont vus refuser un but par la VAR. Mais dans le contenu et l'engagement, ils ont rassuré notamment leur entraîneur, Jocelyn Gourvennec.
On a fait honneur à la compétition, c'est une grosse compétition. Je pense qu'on a bien représenté le club, on a bien représenté le LOSC, on a aussi bien représenté la Ligue 1. Et c'est toujours un défi d'hausser son niveau en Champions League. On dit les clubs français jouent pas tout à fond, etc. Nous, on a dit qu'on voulait jouer tout à 300%. Et on l'a joué à 300%, je pense qu'on l'a montré. Petite chose qu'on peut se reprocher, c'est de ne pas avoir bien fini nos actions ou mieux fini nos actions. Ce soir, je pense que ça se joue à quelques centimètres.
La VAR, c'est l'assistance vidéo. Hein. Vous venez d'entendre l'entraîneur de Lille, Jocelyn Gourvennec, au micro Europe 1 de Sébastien Bouet. Dans les autres matchs de la soirée, hein, le Bayern a étrié le Barça chez lui, 3-0. Et la première surprise est venue de Suisse. Le Manchester United de Cristiano Ronaldo et Paul Pogba a été battu par les Young Boys de Berne. Défaite 2-1.
Ça fait tâche.
Ça fait tâche, exactement.
Martin, enfin une sortie pour terminer.
Oui, un documentaire qui devrait vous plaire, Julien. Netflix dévoile aujourd'hui un Schumacher, un film avec des images d'archives exclusives sur le pilote allemand. Alors il n'est pas du tout question de son état de santé, hein, toujours très secret, mais son épouse et ses enfants témoignent. C'est à retrouver sur Netflix donc.
Merci beaucoup Martin Lange pour ce journal des sports. 6h09 sur Europe 1, restez avec nous. Dans un instant, nous serons en ligne avec la directrice de la FNADEPA, fédération représentant les directeurs d'EHPAD. Ils sont très inquiets parce qu'à partir d'aujourd'hui, ils vont devoir se passer de plus de 10% de leur personnel, tous ceux qui ne se sont pas encore fait vacciner alors que c'est désormais obligatoire. A tout de suite.
5h, 6h30. Europe Matin.
Il est 6h12. Bon début de journée en ce mercredi 15 septembre et c'est le jour J pour les 2,7 millions de personnes concernées par l'obligation vaccinale contre le Covid. Employés d'hôpitaux et de maisons de retraite, soignants libéraux, aides à domicile, pompiers et ambulanciers doivent désormais avoir reçu au moins une dose pour pouvoir travailler. On en parle, Julien, avec Annabelle Weck, la directrice de la FNADEPA, la fédération représentant les directeurs d'EHPAD.
Bonjour Annabelle Weck.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. 89% des personnels travaillant en EHPAD ont reçu au moins une dose de vaccin. C'est les tout derniers chiffres nationaux révélés hier par la Direction Générale de la Santé. 89%, c'est bien, mais ça veut quand même dire que plus d'un salarié sur 10 en EHPAD ne peut désormais plus travailler. Ce n'est pas rien tout de même, hein.
C'est même considérable parce que nous avons des tensions en termes de ressources humaines que nous dénonçons depuis plus de 10 ans maintenant et que la situation est extrêmement difficile en ce moment dans les établissements et les services pour personnes âgées. Et évidemment, chaque personnel qui potentiellement sera absent à partir d'aujourd'hui, c'est une difficulté supplémentaire pour faire fonctionner nos organisations et puis pour accompagner à la hauteur de ce que le méritent nos aînés.
Comment allez-vous vous organiser dans pareille situation ?
Alors, il y a plusieurs moyens qui sont mis en œuvre actuellement. Il y a évidemment une discussion importante qui est poursuivie avec les salariés qui sont toujours pas vaccinés, puisque comme vous le savez, les employeurs doivent les convoquer dans les 3 jours. Donc, on va continuer cet effort de pédagogie en espérant convaincre les derniers réticents, parce qu'on croit évidemment à cette possibilité-là. On sait aussi que certains vont peut-être se faire vacciner là, à partir du 15 septembre. Certains nous l'avaient déjà indiqué, attendre la toute dernière limite. Donc, on aura peut-être une évolution de ces chiffres à suivre dans les prochains jours. Et puis en termes de fonctionnement, eh bien, c'est le difficile travail de jonglage des plannings qui se mettent en œuvre puisque les directions et leurs équipes doivent adapter les plannings pour faire face aux absences. Ces absences qui ont déjà pour l'essentiel été programmées puisqu'on a demandé évidemment aux salariés depuis plusieurs jours, plusieurs semaines maintenant, quel était leur statut vaccinal. Donc les établissements et les services se sont organisés. Pour autant, ça va être extrêmement difficile effectivement parce que 10% de salariés en moyenne, c'est un nombre très élevé et cela reflète également des situations plus tendues encore dans certains établissements.
Quand vous dites on s'est organisé en amont, ça veut dire que certains EHPAD vont faire appel à des intérimaires ou à des professionnels de santé libéraux ?
Ça veut dire qu'on a adapté les plannings pour tenir compte des professionnels qui n'allaient pas être là à compter du 15 septembre. Ça veut dire que les plannings sont extrêmement tendus, qu'on a fait appel aux renforts, qu'on a parfois décalé les congés. Évidemment, on va solliciter si besoin l'intérim dans les structures qui vont en avoir besoin. Parce que effectivement, la situation elle n'est pas homogène sur tout le territoire. On a des établissements qui ont 100% de personnel vacciné et d'autres qui n'en ont par exemple que 80%. Donc les difficultés vont pas du tout être les mêmes et la gestion identique dans ces structures-là. L'intérim peut être évidemment une solution, mais les difficultés en termes de ressources humaines sont telles actuellement dans notre secteur que même les agences d'intérim peinent à nous proposer des personnels pour venir travailler dans nos structures. Et ça, ça concerne des aides-soignants, des infirmières, mais ça concerne aussi du personnel de cuisine, par exemple, ou du personnel d'accueil. Donc c'est vraiment sur tous les postes qu'on est en difficulté aujourd'hui et qu'on a besoin d'un accompagnement fort de Pôle emploi et des pouvoirs publics pour pouvoir recruter.
Imaginons un instant que je sois infirmier et que je ne sois pas vacciné. Qu'est-ce qui va se passer pour moi quand je vais me présenter tout à l'heure au travail ?
La question du statut vaccinal, elle est déjà connue depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et puis, globalement, ce qui se met en place, c'est donc un courrier qui notifie la suspension, c'est une convocation à un entretien pour évoquer le sujet, pour voir si le salarié veut changer d'avis, veut s'inscrire dans cette démarche vaccinale ou si sa position est ferme. On a déjà évidemment eu ces échanges informels avec la plupart des salariés. On a aussi des salariés qui sont déjà en arrêt maladie. Donc c'est la situation au cas par cas qui va se produire selon que le salarié est en poste ou est absent encore.
Des arrêts maladie plutôt que de se plier à cette obligation vaccinale,
c'est, oui, on ce constate déjà cas, depuis, ouais. depuis plusieurs jours, tout à fait. On a pas mal de signalements de nos adhérents. Les contrôles sont évidemment en cours. L'assurance maladie renforce ces contrôles, mais ces absences désorganisent significativement les établissements et les services. Ce qu'il faut savoir, et les professionnels évidemment le savent très bien, c'est que derrière un arrêt maladie, c'est une organisation qui accompagne des humains. On accompagne au quotidien des personnes âgées qui ont besoin d'être aidées pour s'habiller, pour se nourrir parfois, pour leur donner des médicaments. Et on ne peut pas reporter des tâches en disant « on fera ça demain ». Non, on a besoin d'un nombre important de personnel tous les jours. Et donc on essaye de maintenir une organisation la plus adaptée possible pour faire face à la fois aux absences s'il y en a et pour permettre surtout de continuer à maintenir un accompagnement de qualité pour les personnes âgées.
Merci Annabelle Weck d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes la directrice de la FNADEPA, la Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements et services pour personnes âgées. Bonne journée et à bientôt sur Europe 1.
Au revoir.
Il est 6h17 et vous restez avec nous dans un instant, les débuts de Florent Pagny dans la partition. À tout de suite.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Il est 6h20 sur Europe 1. Les principaux titres de l'actualité avec Alban Le Prince.
Ce sont désormais 8 départements qui sont concernés par une vigilance orange pour pluie, inondation, orage et crue entre l'Allier et l'Hérault. Dans le Gard qui est toujours concerné, les écoles restent fermées. Aujourd'hui, les trains ne circulent pas entre Lunel et Nîmes. Le trafic reprend difficilement sur la 9 et une personne est toujours portée disparue. Hier, il est tombé jusqu'à 280 litres d'eau par mètre carré, l'équivalent de 2 mois et demi de pluie en 3 heures. Suspension et pas de rémunération, c'est ce qui attend la poignée de soignants réfractaires au vaccin contre le coronavirus, puisqu'à partir d'aujourd'hui, ils doivent avoir reçu au moins une dose pour pouvoir travailler. Près de 90% d'entre eux sont en règle ce matin. Esther Benbassa, sénatrice Europe Écologie Les Verts, exclue par son groupe au Sénat à partir d'aujourd'hui. Décision suite à des révélations. Mediapart, elle est accusée de harcèlement moral à l'encontre de collaborateurs.
Place à la musique et à votre partition, Omblin, consacrée ce matin à un artiste qui fête ses 60 ans cette année et qui, à cette occasion, sort un nouvel album, le 20e tout de même de sa carrière. Mais retour au commencement, quand Florent Pagny rêve de devenir chanteur.
Et au départ, Julien, c'est le rêve de sa mère. À la maison, on écoute Michel Sardou, Jacques Brel, Luis Mariano, et puis il raconte s'être mis à chanter sur les chansons de Gérard Lenormand. Florent Pagny n'a pas plus de 10 ans et il réalise être doté d'un don, d'une voix déjà exceptionnelle.
Florent Pagny a 13 ans quand il se produit dans les cafés de sa ville de Chalon-sur-Saône.
Et juste 16 quand il abandonne l'école et s'installe à Paris pour essayer de percer. Son quotidien est rythmé par les cours de chant qu'il suit au conservatoire et par tout un tas de petits boulots. En 1980, Florent Pagny est barman dans une discothèque du quartier des Halles. Belle gueule, l'agente artistique Marceline Lenoir le remarque. Par hasard donc, et sans l'avoir vraiment voulu, il débute une carrière d'acteur. Son créneau sera surtout les rôles secondaires.
Des petits rôles, mais aux côtés des plus grands.
Et il rencontre Coluche et Gérard Depardieu dans Inspecteur la Bavure de Claude Zidi. Il joue le rôle d'un jeune boxeur s'entraînant pour les Jeux Olympiques de 1936 dans l'As des As avec le regretté Jean-Paul Belmondo. On l'aperçoit dans le film policier La Balance avec Nathalie Baye et Richard Berry. Et puis il croise à nouveau Gérard Depardieu en 1984 sur le tournage de Force à Gagne.
Si à la guerre, fais pas l'idiot.
Ça sera pas une grosse perte. Pour personne.
Pour moi, oui.
Toi, tu n'as plus le droit à la parole.
Pendant 8 ans, Florent Pagny va faire l'acteur et il va tourner beaucoup.
Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude.
Et la chanson dans tout ça,
on Et elle est là la chanson, quelque part, dans sa tête, un joker dans sa poche, et un contact dans son carnet d'adresses, le producteur Gérard Louvain. Florent Pagny ne cesse de lui proposer des morceaux tout au long des années 80, et même si Gérard Louvain reconnaît son talent, il juge ses paroles pas assez profondes, un petit peu trop légères.
Jusqu'à la chanson qui va enfin faire mouche en 1987.
Le texte est un réquisitoire contre la drogue, elle est destinée, alors non pas à son frère Frédéric, hein, comme on a longtemps pu le croire, mais à son ami le comédien belge Riton Liebman, ancien consommateur d'héroïne. N'importe quoi, et le succès qu'il attendait, Florent Pagny se classe premier au top 50, il a alors 27 ans. Le tout premier succès de Florent Pagny, n'importe quoi, 33 ans plus tard, il revient avec le disque baptisé L'Avenir, et le jour de ses 60 ans, le 6 novembre prochain, le chanteur entamera une nouvelle tournée. Sa première date, ce sera à Bordeaux.
Merci beaucoup, Omblin Roche. Il est 6h24, restez avec nous dans un instant. Dimitri Pavlenko va venir nous donner le programme jusqu'à 9h. A tout de suite.